Et finalement, là, qu'est-ce qu'on fait dans cette série de... J'insiste sur ceci, c'est que je voudrais qu'on arrive à faire comme deux choses simultanément. La première chose, bien sûr, on parle peinture. Parler sur la peinture, moi je trouve que c'est très difficile. Enfin, tout est difficile. Hein. Je sais pas, mais c'est difficile. Alors, c'est pas, vous sentez bien, je parle pas de la peinture en général. Ce qu'il peut y avoir de général dans ce que je dis, ça ne peut se dégager, et c'est pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit de général sur la peinture. Mais ce que je dis, c'est de toute manière, dans quelle mesure et quel ordre de généralité cela a, c'est à nous de voir. C'est à nous de voir à mesure qu'on avance un petit peu en s'appuyant sur tel peintre, sur tel autre peintre, sur telle époque. Mais parallèlement et en même temps, ce qui m'intéresse également, ce serait d'arriver à former, c'est un point de détail, mais... une espèce de concept alors propre à la philosophie. Et vous sentez bien quel est ce concept que je cherche, puisque c'est en même temps celui-là dont je parle à propos de la peinture, à savoir un concept de diagramme, qui alors, à la limite, aurait peut-être un rapport privilégié avec la peinture, mais en tout cas aurait sa consistance en tant que concept. Si bien que cette série de recherches sur la peinture, c'est aussi bien une série sur le diagramme et la possibilité d'élaborer un concept philosophique de diagramme, ou un concept logique de diagramme, et à quelle logique cette notion de diagramme devrait-elle appartenir. C'est pourquoi je commence par, à moitié résumé et à moitié... et à moitié fixé, les caractères principaux de ce que j'appelais diagramme au niveau de la peinture. Car tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, ça revient à une chose extrêmement simple. C'est, est-ce que dans un tableau... Alors déjà, question, un tableau, c'est quoi? Ça veut dire un tableau en général, ou ça veut dire un certain type de tableau, à telle époque ou... des exemples dans toutes les époques. Tout ça, on ne répond pas d'avance à tout ça. Mais je suppose que dans un tableau, il y a... et je suis forcé d'accumuler les réserves. Actuellement, en acte, ou même virtuellement. Alors virtuellement, ça ouvre bien des choses vagues, ça me donne raison à des conditions très faciles. Hein. Virtuellement, on peut toujours dire que c'est virtuel, bon, mais... ça fait rien, on n'est pas sûr de soi, nous ne sommes pas du tout sûrs de nous. Bon, actuellement ou virtuellement, il y aurait sur la toile un diagramme. Bon, ça, on ne sait pas ce que c'est qu'un diagramme. On n'avance pas. Mais quand même, avant d'arriver à un concept philosophique, ce que j'essaie de définir là, c'est les caractères picturaux de ce que j'appelle diagramme. Alors, est-ce qu'il y a des diagrammes en musique? Je ne sais pas, là, ce serait une autre recherche. Hein. Est-ce qu'il y a des diagrammes en littérature? Quel rapport entre le diagramme et un langage? Tout ça, c'est des choses qui s'ouvrent à nous comme objet de recherche. Simplement, pour le moment, je voudrais juste numéroter certains caractères du diagramme pictural. J'en vois 5. En fonction de ce qu'on a vu avant les vacances. Premier caractère, je dis, dans la notion de diagramme pictural, il me semble qu'il y a deux idées essentiellement liées, mises dans une relation nécessaire. Et le diagramme, ce serait la mise en relation nécessaire de ces deux idées. Ces deux idées, c'est celle de chaos, et c'est celle de germe. Si bien que le diagramme, ce serait un chaos germe. Bon. Vous me direz, pourquoi appeler ça diagramme? Je fais toujours appel à votre patience, il faut attendre. On verra si au besoin, peut-être que parmi vous, il y en aurait qui, c'est un point de détail, penseraient qu'un autre mot est beaucoup plus convenable. Il y en a, si vous voulez, je suppose tout. Évidemment, l'abominable, c'est pour moi, ce sera ceux qui penseront que non, ça ne se passe pas comme ça en peinture, qu'il n'y a pas un chaos sur la toile. Bon, ça, ce serait une objection de fond. J'appellerais objection, qui m'intéresserait beaucoup, mais cette fois une objection de forme, quelqu'un qui se dirait, d'accord, il y a peut-être quelque chose d'équivalent à un chaos germe sur la toile, mais ce n'est pas le mot diagramme qui serait le meilleur pour désigner ça. C'est possible aussi. Je veux dire, là, notre recherche, elle est toujours, elle n'est pas prédéterminée. Alors, moi, pour le moment, j'appelle ça diagramme. Et c'est le premier caractère, un chaos germe. Et la relation, l'instauration d'une relation nécessaire entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un chaos germe? Alors, mes seuls points de confirmation, je vous rappelle, j'avais pris à la fois des textes et des exemples, non, d'ailleurs pas encore d'exemples, mais on le verra seulement plus tard, les exemples, dans Cézanne et dans Clé, avant tout, où ces notions de chaos germe me paraissaient vraiment très, très, très élaborées par ces deux peintres. Bon, mais c'était pris donc dans une époque... C'était pris dans une époque relativement restreinte de ces anacrées. Donc, je ne prétends pas élargir. On verra, ça doit se faire tout seul. Chaos germe, ça veut dire quoi? Ça veut dire un chaos, mais un chaos dont il doit sortir quelque chose. Et ce chaos doit être présent sur la toile de telle manière que quelque chose en sorte dans la toile. Ça, c'était le premier caractère. Deuxième caractère. Il me semble que, comment je dirais, il y a une exposition de Michaud, des peintures de Michaud en... en 67, il y avait une exposition de peinture de Michaud et apparu à ce moment-là un petit texte de Jean Grenier sur Michaud et les peintures de Michaud. Et le titre du texte de Jean Grenier, qui est un tout petit texte, pas long, il dit pas grand-chose, est un abîme ordonné. Un abîme ordonné. Rien que l'expression m'intéresse, je veux dire. Certaines manières, une peinture qui ne comprend pas son propre abîme, qui ne comprend pas un abîme, qui ne passe pas par cet abîme, qui n'instaure pas sur la toile un abîme, c'est pas une peinture. Mais voilà, d'une certaine manière, c'est très facile de faire un abîme, très facile de faire un chaos. Je sais pas, après tout, je sais pas, parce que c'est tellement facile. Mais supposons que soit... Bon, qu'il suffise d'un peu de schizophrénie pour faire un chaos. D'où l'expression « un abîme ordonné ». Ça ne veut pas dire qu'il y ait un ordre qui récuse l'abîme, mais qu'il remplace. Ça veut dire qu'il y a un ordre de l'abîme, de telle manière que de l'abîme sorte quelque chose, mais quelque chose qui n'est pas ordinaire. Un abîme ordonné. Abîme ordonné, l'expression de Jean Grenier, elle correspond absolument, je pourrais la prendre à la place de la mienne, chaos germe, c'est pareil. Deuxième caractère, il me semble que dans l'ordre de la peinture, si c'est ça le diagramme, quel est le caractère de ce chaos germe? Je dirais en second lieu qu'il a pour caractère d'être essentiellement, et ça m'importe beaucoup, d'être fondamentalement manuel. Et encore une fois, là, je ne sais pas où ça va nous entraîner, mais je sens que forcément ça va nous entraîner quelque part. C'est une main, et seule une main déchaînée peut le tracer. Qu'est-ce que ça veut dire, une main déchaînée? on n'a qu'à se guider. Qu'est-ce que c'est que la chaîne de la main? La chaîne de la main, quant à la peinture, c'est évidemment l'œil. Tant que la main suit l'œil, je peux dire qu'elle est enchaînée. La main déchaînée, c'est la main qui se libère de sa subordination aux coordonnées visuelles. Or, le chaos germe, le diagramme présent sur la toile, est essentiellement manuel. Et après tout, là aussi, vous comprenez, il faut aller son chemin et voir en quel sens ce chemin, en s'accrochant à des petites choses dont on est relativement sûr, retentit sur des problèmes classiques. Parce qu'après tout, est-ce qu'on ne tiendrait pas là une certaine manière de nous mêler, nous, d'un problème classique? Problème classique, quels sont les rapports de l'œil et de la main dans la peinture? Je veux dire, la peinture, c'est un art visuel ou un art manuel? Et si on dit c'est les deux, bon, ça n'avance pas. Quel rapport y a-t-il entre l'œil et la main dans la peinture? Et là encore, avec toutes les réserves que je refais chaque fois, est-ce que c'est une question générale? Ou est-ce que ça varie avec chaque peintre? Ou est-ce qu'il y a du moins de grandes tendances qu'on peut distinguer pour ces rapports de l'œil et de la main dans la peinture? Est-ce qu'un peintre dit abstrait? Et au lieu de fonder ces catégories abstraites, expressionnistes, figuratifs, etc., sur des données puériles comme est-ce que ça présente quelque chose ou pas, est-ce qu'il n'y a pas lieu de reprendre ces grandes catégories si elles sont bien fondées, en les rapportant à de tout autre critère? Est-ce que les rapports, exemple, est-ce que les rapports de l'œil et de la main sont les mêmes chez un peintre qu'on appelle abstrait, ou chez un peintre que l'on qualifiera d'expressionniste, ou chez un peintre que l'on qualifiera de figuratif? Est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce que c'est que la variabilité possible des rapports œil-main? Or, nous, notre manière de pénétrer comme de biais dans ce problème classique, les rapports de l'œil et de la main en peinture, c'est précisément, c'est pas qu'on ait raison, c'est un petit biais pour entrer dans ce problème. Quitte à ce que ce biais change peut-être la nature du problème. C'est toujours cette histoire de diagramme au niveau du second caractère que j'essaie de développer. À savoir, il me semble que ce chaos sur la toile, s'il existe, ce chaos instauré sur la toile, qui est comme l'acte d'instauration de la peinture, est essentiellement manuel. Et que même si ceci n'est pas vrai de tous les moments du tableau, quant au diagramme, je dois dire, le diagramme est manuel, c'est l'expression d'une main libérée de toute soumission à l'œil. Un peu comme si je faisais des trucs en... Alors, une espèce de gribouillis, quoi, que je peux faire en fermant les yeux. Comme si la main ne se guidait plus sur des données visuelles. C'est bien par là que c'est un chaos. C'est un chaos en quel sens? C'est que ça implique ce diagramme, je ne dis pas l'ensemble du tableau, puisqu'encore une fois, le diagramme est là pour que quelque chose en sorte. Donc je ne parle pas de ce qui va sortir du diagramme, pour le moment je parle de l'action du diagramme même. Je dis c'est une action manuelle. Et d'une main libérée de l'œil. C'est la puissance de la main du peintre. Alors une main libérée de l'œil, c'est une main aveugle. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle est au hasard et simple gribouillis? Évidemment non. Peut-être que la main du peintre a des règles manuelles. A peut-être un sens manuel, des vecteurs manuels. En tout cas, en quoi est-ce un chaos le diagramme? C'est parce qu'il implique l'effondrement des coordonnées visuelles. C'est les yeux tout rouges de Cézanne, là je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien, mais ça ne veut pas dire je ne fais plus rien. Faire sans voir. Libération de la main. Bon. Le diagramme est manuel. Bon. Alors, on voit en quel sens. Et en effet, à ce niveau, je dirais, au niveau du diagramme. Et en tant que diagramme, le tableau n'est pas visuel, il est exclusivement manuel. C'est la révolte de la main. La main en a assez de suivre l'œil. Elle a son grand moment d'indépendance. Je suppose. Seulement ça devient bizarre, parce que c'est pas seulement une indépendance, c'est un retournement de la dépendance. Au lieu que la main suive l'œil, la main comme une gifle va s'imposer à l'œil. Elle va faire violence à l'œil. L'œil aura du mal à suivre le diagramme. Ce me serait une confirmation, si on ne trouve pas de diagramme, c'est parce que l'œil ne trouve pas, alors tout va bien. Mais c'est très difficile. Au lieu que la main suive l'œil, voilà que la main libérée va s'imposer à l'œil. Mais est-ce que l'œil est capable de voir ce que fait la main libérée de l'œil? C'est compliqué, c'est une véritable torsion du rapport de deux organes. Et en effet, dans les tableaux, il y a un moment où on a l'impression que l'œil ne fait plus suivre. Comme si la main était animée d'une volonté étrangère. Tiens, comme si la main était animée d'une volonté étrangère, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me fait écho. Les gens aussi, on en est réduit à chercher des échos pour se donner raison. C'est une expression très belle, parce qu'elle est plus belle que la manière dont je la cite. La main animée d'une volonté étrangère et dès lors l'œil qui s'affole. Qui se dit, mais où est-ce qu'on m'entraîne? C'est une expression de Wöringer. Pour désigner quoi? Pour désigner ce qu'il appelle la ligne gothique. On verra bien plus tard le sens qu'il donne très spécial à gothique, c'est la ligne septentrionale ou gothique, dont Wöringer se fera l'analyste au niveau de l'architecture, de la peinture, de la sculpture. On verra ce que c'est plus tard. Mais, juste pour définir ce qu'il appelle la ligne gothique, il va nous dire, oui, c'est une ligne à la lettre déchaînée. C'est une ligne manuelle et plus une ligne visuelle. Une ligne manuelle qui, bien sûr, s'impose à la vue, mais s'impose à la vue comme si la main qui la trace était animée par une volonté étrangère à la vue elle-même. Bon, je dirais en effet qu'il y a deux manières de définir la peinture. Elles ont l'air équivalentes, mais elles ne le sont pas du tout. Vous pouvez dire, la peinture, c'est le système ligne-couleur. Ou vous pouvez dire, la peinture, c'est le système trait-tache. Il me semble que les connotations des deux formules, ce n'est pas les mêmes. Quand vous dites, la peinture, c'est un système, c'est le système ligne-couleur, vous la définissez déjà. Ça a une résonance visuelle. Vous la définissez comme art visuel. Et sans doute, elle est ça. Bien sûr, elle est ça. Quand vous dites c'est le système très tâche, la connotation est très différente. Et c'est pas par hasard qu'il y a une école ou une tendance qu'on appellera le tachisme. Très tâche, c'est pas pareil. Très tâche, ça a une connotation manuelle. Prenez tout un problème qui m'intéresse toujours. Là, vous voyez, je fais mon second caractère du diagramme. Il y a un problème très important. Qu'est-ce que c'est? Si j'essaie de décrire la peinture comme un véritable agencement, je dirais quoi? Cet agencement, il implique quoi? Cet agencement, mettons, il implique ou il a impliqué ou il peut impliquer ceci. Une toile, un chevalet, des couleurs, des pinceaux. Toile sur chevalet, pinceau, bon. La toile sur chevalet, bon. Santé, c'est complètement visuel, ça. Pourquoi? Le tableau avec ses bords, à ce moment-là, et vous savez bien qu'il y a un grand problème des bords du tableau, de la bordure, eh bien, parce que de ce problème, il a agité toute la peinture dans toute son histoire, la toile sur chevalet, elle joue le rôle d'une véritable fenêtre, le thème de la fenêtre. La fenêtre, c'est une drôle de chose. Il y a un article très beau, un article assez merveilleux, qui vient de paraître dans les cahiers du cinéma de Virilio, sur l'audiovisuel. Hein. Il y a 5-6 pages très belles, je trouve. C'est du meilleur Virilio. Il dit il y a eu deux moments, il y a eu deux inventions fondamentales liées à la maison. Il dit la première, c'est la porte-fenêtre. Et tout a commencé par la porte-fenêtre, comme pièce fondamentale de la maison. Et la porte-fenêtre, c'est j'entre et je sors, et la lumière entre et sort. Mais il dit admirer l'abstraction de la fenêtre. Car même si on peut physiquement, c'est pas sans effort, alors on n'est pas censé entrer ni sortir par la fenêtre. La fenêtre, c'est un orifice pour que l'air et la lumière entrent ou sortent. C'est donc une abstraction démente. Il faut l'abstraction. Avoir l'idée de faire des fenêtres qui ne soient pas des portes-fenêtres, c'est un degré d'abstraction très grand. C'est selon Virilio, là dans son texte très brillant, la première grande abstraction, comment dire, anthropo-cosmique, à savoir l'isolement de la lumière. Bon, c'est bien. Mais sentez qu'en effet, mettre le tableau sur un chevalet, c'est procéder à cette espèce d'abstraction visuelle. La porte-fenêtre, elle est au contraire aussi manuelle que visuelle. La fenêtre, elle est visuelle. Bon, le tableau sur chevalet, je dirais que c'est la détermination visuelle du tableau. C'est de l'optique. Et le pinceau tenu par la main, c'est la main subordonnée à l'œil. D'où la position grotesque, n'est-ce pas, qu'on représente dans l'imagerie classique, personne n'y a jamais cru, du peintre là qui ferme un œil et dont la main suit les données visuelles, qui circulent, qui tout ça, bon. C'est bien parce que c'est... Mais chacun de nous sent que ce n'est pas si simple les rapports de l'œil et de la main dans la peinture. Il y a un texte que je cite, là, ça, bon, je dis n'importe quoi, il y a un texte de Faucillon, qui est quand même un grand critique d'art, d'Henri Faucillon, qui s'appelle précisément « Éloge de la main ». Ce texte qui a eu beaucoup de retentissement, c'est bizarre, parfois on sent des accords, c'est pas par principe, non. On aime tellement trouver beau les textes que... Là, je trouve ce texte pas bon du tout, parce que c'est une espèce de truc, il me semble, c'est un peu tout fait. L'éloge de la main, ça consiste à montrer en quoi la main est très nécessaire à la peinture, et puis en même temps, il n'y a pas tellement de problèmes qu'elle exécute. Elle exécute cette espèce d'idée picturale venue de l'œil. La main là, est vantée comme espèce de servante fondamentale. Mais ça ne me paraît pas vrai. Hein. Je ne sais pas, en tout cas, s'il n'y a pas dans un tableau une rébellion de la main par rapport à l'œil, hein, c'est que le tableau n'est pas bon. Or, je dis, l'histoire, jamais la peinture n'est passée, si important que soit, ce couple chevalet-pinceau. Encore une fois, le chevalet, à mon avis, exprime le tableau à venir comme réalité visuelle, comme fenêtre. Et le pinceau exprime la subordination de l'œil aux exigences, de la main, pardon, aux exigences visuelles. Mais jamais un peintre ne s'est contenté de ça. Au point que la question, ce serait même pas quels sont les peintres qui se passent de chevalet. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne peignent plus sur chevalet. Il y en a qui ont gardé le chevalet. Ça, on peut toujours garder le chevalet et puis en faire un usage tellement secondaire qu'il ne fonctionne plus en son plein sens. Donc la question, ce n'est pas la question du fait. Y a-t-il encore pour tel peintre usage du chevalet? C'est une question de droit. Par exemple, je prends un exemple connu, Mondrian, je crois, se servait de chevalet. Sa peinture n'est plus du tout, il ne peut plus être dit une peinture de chevalet. C'est-à-dire, la toile n'est pas traitée comme une fenêtre. J'insiste là-dessus, la réalité visuelle du chevalet, c'est que lorsque on peint sur chevalet, d'une certaine manière, la toile à fer est traitée comme à travers une fenêtre. Ou elle-même, elle est la fenêtre. Et le thème de la fenêtre dans la peinture a été fondamental dans toute la peinture classique. Mais pensez déjà à ceci. Lorsque, dans l'impressionnisme, ils sortent de l'atelier, lorsque ils vont au motif, lorsqu'ils peignent dans la nature, ils emmènent leur chevalet. Van Gogh, Cézanne, là, ils se baladent. Beaucoup dans les textes, dans les lettres de Cézanne ou de Van Gogh, les remarques sur pas bon, il y a de sortir aujourd'hui. Parce qu'il y a le Mistral. Que le Mistral, il emporte le chevalet. Alors il faudrait flanquer des cailloux, non, au chevalet pour qu'il tienne, non, ça irait pas non plus. Parce que peut-être que précisément, le chevalet dans la nature, il fonctionne plus. Il fonctionne plus comme chevalet. La preuve, encore une fois, c'est Gauguin, Van Gogh qui peigne à genoux pour avoir une ligne d'horizon bas. Voilà, qu'est-ce qu'ils font du chevalet? Il faut raccourcir les pieds, d'accord, mais enfin tout ça. On voit que la question est là. Bien, je dis, tous les peintres, même ceux qui peignaient avec le couple chevalet-pinceau, tout le monde sait que la toile ne cesse pas de sortir du chevalet. De même que le pinceau ne cesse pas d'agir comme autre chose qu'un pinceau. Et qu'est-ce que c'est? Les instruments du peintre qui ne sont pas le pinceau, on les connaît, c'est n'importe quoi, et de tout temps ça. Je veux dire, on n'a pas attendu les peintres modernes pour... Peut-être que les peintres modernes ont poussé ça à une espèce d'expression brute. Il faudrait savoir pourquoi. Mais de tout temps, Rembrandt, c'est évident qu'il ne peignait pas au pinceau, pas, je veux dire, pas seulement au pinceau. Il peignait avec quoi de tout temps, les peintres? Il peignait avec des brosses, de véritables brosses. Il peignait avec des éponges. Éponge, brosse, chiffon, avec des chiffons. Avec quoi encore? Ben, l'exemple célèbre de Pollock, avec des seringues à pâtisserie. Bon, la seringue à pâtisserie, ça c'est quelque chose. Bon, la brosse aussi, l'éponge, la seringue à pâtisserie, on peut faire les bâtons. Les bâtons, ça a toujours été très important dans la peinture, les bâtons. Rembrandt servait de bâton. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi je raconte ça? C'est toujours dans la perspective de mon second caractère. La perspective de mon second caractère, ça consiste, vous voyez, toujours à dire, il y a un problème. Il y a une espèce de tension. Il y a une tension picturale entre l'œil et la main. Croyez pas que ce soit un problème là d'harmonie, que la main à la fois suive l'œil et exécute quelque chose qui va être visuel. Ça se passe pas comme ça. Je ne sais pas ce qui va en sortir, mais je dis, si on ne passe pas ou si on ne vit pas une certaine opposition, une certaine tension, un certain antagonisme au niveau de la peinture entre l'œil et la main, c'est qu'on ne voit pas bien à ce moment-là les problèmes concrets. Or, je dirais, si le couple chevalet-pinceau représente la peinture comme art visuel, l'autre couple, hors chevalet, ça peut être quoi? Je dis hors chevalet, je le détermine négativement, parce que ça peut être tellement de choses. Ça peut être la peinture murale, mais ça peut être aussi la peinture sur le sol, parce que c'est la même chose. Alors, par exemple, Mondrian, c'est très net chez lui. Il passe par le chevalet, mais le chevalet ne veut plus rien dire, puisque sa peinture est fondamentalement une peinture murale, qui s'oppose à une peinture sur chevalet. Et je pense que, là j'ai pas, je ne sais pas, mais ce ne serait pas difficile, il y a sûrement des textes de Mondrian, où s'il parlait du chevalet, il dirait que le chevalet, ben, c'est parce que l'heure n'est pas encore venue de la vraie peinture murale telle qu'il l'a concevée, et c'est vrai que la peinture murale telle qu'il l'a concevée impliquait une architecture qui était peut-être en train de se faire, mais qui était aussi à ses débuts. Tout comme Mondrian estimait qu'il était au début de quelque chose. Bon, c'est une peinture murale. C'est-à-dire, la toile n'y est plus du tout, comprenez ce que ça veut dire, en quoi ça s'oppose à une peinture sur chevalet, c'est que la toile ne fonctionne plus du tout comme fenêtre. Et Pollock, lui, il ne peint pas sur chevalet. Il lui faut une toile non tendue sur le sol. Toile non tendue sur sol, c'est très différent. C'est une solution tout autre. C'est même pas comme Mondrian, qui peut encore se servir de chevalet. Pollock, il y a au moins certaines toiles de Pollock qui excluent, alors, qui excluent complètement le chevalet. C'est pour dire que c'est très varié. Mais que je dirais le couple hors chevalet, c'est-à-dire peinture murale tendance Mondrian, peinture sur sol, tendance expressionnisme à Pollock. Tout ça. Le couple, donc, hors chevalet, d'une part, d'autre part, balai, brosse, seringue à pâtisserie, éponge, chiffon, ça, c'est la peinture comme réalité manuelle. Alors, je ne dis pas que ça s'oppose, je dis que c'est deux choses différentes. Exactement comme je viens de dire tout à l'heure, si vous définissez... Si vous définissez la peinture comme le système des lignes et des couleurs, vous en donnez une définition légitime, je ne dis pas du tout que ce soit illégitime, c'est une définition parfaitement légitime, mais c'est une définition visuelle. Si vous définissez la peinture par trait tache, c'est une définition manuelle. Pourquoi ? Ben, faut le sentir. De même, je dirais, si vous dites, alors, définition matérielle, si vous définissez la peinture par chevalet-pinceau, c'est une définition matérielle possible. Bien entendu, vous savez d'avance qu'elle ne répond pas à tous les tableaux, mais ça donne une idée, c'est une définition nominale matérielle. Mais il y a aussi la définition manuelle, à savoir, hors chevalet, bâton, brosse, seringue à pâtisserie. Vous avez aussi une définition des éléments matériels de la peinture, simplement c'est cette fois-ci des éléments manuels. Alors, ça peut s'arranger, les deux aspects peuvent se concilier. Vous savez comment l'allemand dit peinture ? Il dit mal. Le peintre, c'est le malheur. Rien que ça, c'est très important pour le génie des langues. Le mot allemand, ça nous servira d'ailleurs plus tard, ne répond absolument pas au mot français, il n'y a pas de correspondance. Mal, c'est quoi ? C'est un mot qui vient, qui a une étymologie latine, qui vient de macula. Macula, c'est quoi ? Macula, qui a donné son nom à une très bonne revue de peinture, hélas disparue, je crois. Macula, c'est la tache. Donc, le peintre, pour les Allemands, c'est, comme naturellement, à travers la langue, c'est le tachiste. Bon, ça me paraît important, pourquoi ? Parce que c'est tout à fait autre chose que le mot français « peinture ». Je dirais que le mot allemand tire la peinture vers le couple « trait-tache », c'est-à-dire vers la réalité manuelle de la peinture, tandis que le mot français ingéré. Tire la peinture vers sa réalité visuelle. Alors, j'ajoute, quels que soient les accords possibles entre l'œil et la main dans la peinture, on ne peut pas présupposer qu'il n'y a pas un problème fondamental de leur tension et de leur opposition virtuelle. Même virtuelle, je reprends le mot vague de virtuelle. C'est pour ça que le texte de Faucillon sur la main me paraît si intéressant, mais si insuffisant. Ce qui me semble intéressant, c'est précisément l'histoire et les variations possibles de la lutte, de l'antagonisme. Il y a toujours un moment, je ne dis pas du tout que la peinture ne résout pas la tension œil-main, je dis qu'il y a toujours un moment dans la peinture ou un aspect dans un tableau où la main et l'œil s'affrontent comme des ennemis. Et c'est peut-être un des moments très intéressants de la peinture. Donc, je dis, en vertu de mon second caractère, le premier caractère du diagramme, c'était simplement, ben, voyez, c'est un chaos germe. Second caractère, je dirais, le diagramme en sens, c'est un ensemble très tâche, et non pas du tout ligne couleur, c'est un ensemble très tâche. Et cet ensemble est un ensemble manuel. Voyez en quoi ce second caractère est en prolongement du premier. Car je peux préciser en quoi il y a chaos. Si le diagramme est fondamentalement manuel et exprime une main qui s'est libérée de sa subordination à l'œil, ne serait-ce que provisoirement, encore une fois, ça ne vaut pas, cette formule ne vaut pas pour ce qui va sortir du diagramme, ce qui va sortir du chaos. Mais si c'est bien ça au niveau du diagramme, on voit bien en quoi le diagramme est un chaos, puisque, encore une fois, il implique l'effondrement des coordonnées visuelles dans cet acte par lequel la main se libère. En d'autres termes, c'est un ensemble de traits, mais de traits qui ne constituent pas une forme visuelle. Donc ce sont des traits qu'il faudra appeler à la lettre non signifiant. Et la tâche, c'est quoi? La tâche, c'est peut-être une couleur, mais c'est comme une couleur non différenciée. Un ensemble de traits non signifiants et de couleurs non différenciées. C'est ça le chaos, l'effondrement. D'où troisième caractère. Troisième caractère, là on l'a vu, alors je peux aller plus vite. C'est que dès lors, si le diagramme c'est le trait tâche d'origine manuelle qui surgit sur la toile et qui récuse les coordonnées optiques, les coordonnées visuelles, qui les entraîne dans une espèce d'effondrement, comment le définir, ce trait tâche? Eh bien, cette fois-ci, on peut pencher vers l'autre côté, essayer de le définir par rapport à ce qui est censé en sortir, puisque quelque chose sort du diagramme. Ce qui sortira du diagramme, ce sont les couleurs picturales et les lignes picturales. On ne sait pas encore ce que c'est, une ligne picturale ou une couleur picturale. C'est-à-dire l'état pictural des couleurs, l'état pictural de la ligne. Mais le diagramme n'est pas encore ligne ni couleur. Il est quoi alors? On l'a vu. Clé donnait la réponse, il est le gris. La tâche, c'est le gris. Et c'est ça le diagramme, c'est le gris. Et en quoi c'est ça le diagramme? Parce que c'est les deux gris
parce que le gris est double. Parce que le gris est à la fois le gris du noir-blanc. Et dans ce gris-là, c'est toutes les coordonnées visuelles qui s'abîment. Et il est aussi le gris du vert-rouge d'où va sortir la gamme des couleurs. Ou bien, je dirais aussi bien, le gris-noir-blanc d'où va sortir la gamme de la lumière. Ce qui va sortir du diagramme, c'est la double gamme picturale. Lumière-couleur. Et c'est ce que disait Clé dans ses textes qui me semblent très beaux, précisément sur le gris. Le point gris saute par-dessus lui-même. Vous voyez, c'est le double gris, les deux aspects du gris. Le gris du noir-blanc et le gris matrice de la couleur. Bon, mais ce n'est pas encore une couleur. Donc il faut bien que quelque chose en sorte. Et je dirais la même chose pour l'autre aspect du diagramme. La tâche, c'est donc le gris dans cette espèce. Cette fois-ci, vous voyez que la tension, elle n'est même plus entre l'œil et la main. Elle est dans la tâche elle-même, la tension. Dans le gris de la tâche, dans la grisaille de la tâche, il y a les deux aspects. Suivant que ce gris est le gris du noir-blanc, suivant que ce gris est la matrice des couleurs, le gris du vert-rouge. Alors, la même chose pour le trait. Le trait n'est pas la ligne picturale, mais la ligne picturale en sortie. Et à cet égard, qu'est-ce que c'est? Je dirais, le trait, ce n'est pas encore une ligne. C'est la ligne qui sera composée de traits. Ou bien je dirais, le trait, c'est l'élément de composition manuelle de la ligne visuelle. La ligne visuelle n'est pas composée de points, ni même de segments. La ligne visuelle est composée de traits manuels. Il y a hétérogénéité entre le composant et le composé, parce que le trait est exclusivement manuel, tandis que la ligne produite par le trait est visuelle. Si bien que le trait, il faudrait le définir à la limite, précisément, pour qu'on sente son originalité propre, comme une ligne qui n'a aucun moment de direction constante. Dès lors, il n'y a pas de réalité visuelle de cette ligne. Une ligne qui change de direction presque à chaque point. Une ligne qui changerait de direction à chaque point. Ce serait ça le trait. Là. Supposons. Dès lors, voyez que je distingue le diagramme de deux choses avec lesquelles pourtant il est indissolublement lié, son avant, son après. Il est en rapport avec un avant, puisque il entraîne cet avant dans la catastrophe. C'est le monde visuel. Il est en rapport avec un après, puisque quelque chose va sortir du diagramme. La peinture elle-même. Le trait tâche, comme unité picturale manuelle, va entraîner la catastrophe visuelle de telle manière qu'en sorte quoi ? Quelque chose de nouveau. Qu'on appellera comment ? Supposons, c'est commode, le troisième œil. Il aura fallu que les yeux s'anéantissent pour que sorte le troisième œil. Mais le troisième œil, il sort de quoi? Il sort de la main. Il sort du diagramme. Il sort du diagramme manuel. Bon. Quatrièmement. Quatrième caractère. Disons-le alors un peu plus concret, et ça j'ai qu'à récapituler des choses qu'on avait vues. C'est aussi bien la fonction du diagramme, c'est quoi? Par rapport à son avant, par rapport à ce qu'il y avait avant lui, c'est justement défaire les ressemblances. C'est évident, là tout le monde le sait, j'ai pas besoin de le dire, il n'y a jamais eu de peinture figurative, si l'on définit la figuration par l'action de faire ressemblant. Il n'y a jamais eu de peinture figurative, ça va de soi. Défaire la ressemblance a toujours été quelque chose qui non seulement se faisait dans la tête du peintre, mais appartenait au tableau comme tel. Bien, même si la ressemblance est conservée, elle est tellement secondarisée que même les peintres qui estiment en avoir besoin, ils en ont besoin comme d'une régulation et non pas comme quelque chose qui est constituant du tableau. En science, il n'y a jamais eu de peinture figurative. Donc, défaire la ressemblance a toujours appartenu à l'acte de peintre. Or, c'est bien le diagramme qui défait la ressemblance. Pourquoi? On l'a vu les dernières fois, au profit de, comme disent certains peintres, comme dit par exemple Cézanne souvent, au profit d'une ressemblance plus profonde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien pour faire surgir l'image. Prenons ça à la lettre et servons-nous de toutes les expressions toutes faites d'où qu'elles viennent. On défait la ressemblance pour faire sortir l'image. Qu'est-ce que c'est ça? En cherchant alors à varier le vocabulaire uniquement pour, dans l'idée que ça peut nous faire avancer, je dirais aussi bien défaire la représentation pour faire surgir la présence. Représentation, présence. La représentation, c'est l'avant, l'avant-peindre. La présence, c'est ce qui sort du diagramme. Ou bien, je dirais aussi bien défaire la ressemblance pour faire surgir l'image. Mais à ce moment-là, ce qui surgit, ce qui sort du diagramme, c'est l'image. Bien, l'image sans ressemblance. La théologie chrétienne a élaboré très tôt, très vite, un fort beau concept qui doit d'ailleurs indiquer tous les rapports, déjà qui préfigure les rapports difficiles art-religion. C'est l'idée de l'image sans ressemblance. Si vous avez fait du catéchisme, enfant, vous vous rappelez, on apprend ça dans le catéchisme. On apprend, et ça vient des pères de l'Église en droite ligne, c'est-à-dire c'est bien que les catéchismes aient conservé ces formules splendides. Hein. Dieu a créé l'homme à son image et ressemblance, et par le péché, l'homme a gardé l'image, ça on ne pouvait pas lui offrir, même Dieu, mais il a perdu la ressemblance. Le péché est l'acte par lequel l'homme se constitue comme image sans ressemblance. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est possible ça qu'une image soit image et pourtant pas semblable? L'image sans ressemblance, bon, c'est bien ça que la peinture nous envoie. Elle nous donne l'image sans ressemblance. Si on cherchait un mot pour désigner image sans ressemblance, toujours là dans une recherche de pur vocabulaire pour essayer de voir où ça nous mène, je dirais, est-ce que c'est pas ça qu'on appelle icône? Image sans ressemblance. Et en effet, l'icône, c'est pas la représentation, c'est la présence. Et pourtant, c'est l'image en tant que présence. la présence de l'image. Le poids de la présence de l'image, ça c'est l'iconique. Bon. Alors, bien. Vous voyez, je dirais le diagramme, c'est l'instance par laquelle je défais la ressemblance pour produire l'image présence. Je passe par le diagramme pour cela, effondrement de la ressemblance et production de l'image. C'est l'aspect avant et l'aspect après. Entre les deux, le diagramme. Et c'est pour ça que je proposais par commodité, toujours, là j'essaie de chercher terminologiquement, distinguons trois choses, les données, la possibilité de fait et le fait. Les données visuelles, c'est ce qui s'écroule dans le diagramme. Mais pourquoi ? Pour que surgisse le fait pictural. On a vu notamment le fait pictural. Et le diagramme, c'est quoi ? C'est suivant la formule du peintre Bacon, c'est la possibilité du fait. La possibilité de fait. L'image sans ressemblance. Bon, je dis à mon avis, enfin à mon avis, c'est pas des avis tout ça. Quel est le peintre ? Alors toujours dans ma recherche de situer de temps en temps un petit exemple par-ci par-là. Quel est le peintre qui a vraiment promu, qui a vraiment imposé comme une espèce de présence brute du fait pictural ? Un des preuves. Il n'y a pas de premier, mais parce qu'après tout, c'est vrai de tout temps, tout ça. Mais un ou qui, notre conscience quoi, de moderne ou de pseudo-moderne, lie énormément, il me semble, l'affirmation, l'imposition du fait pictural, c'est Michel-Ange. Il y a un tableau de Michel-Ange, et c'est pas par hasard que c'est un sculpteur, peut-être que c'est un sculpteur peintre. Il vous flanque là devant un fait pictural où il n'y a plus rien à justifier, c'est-à-dire où la peinture a conquis sa propre justification. Or, ça se fait sous quelle forme ? Ça se fait encore une fois, et là, moi je crois très fort hein, que les grandes catégories esthétiques sont très bien fondées. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent oh, romantisme, classicisme, baroque, c'est que des mots tout ça, ou bien l'abstrait, l'expressionnisme. Je ne pense pas du tout que ce soit des mots, je crois que c'est très très bien fondé, qu'il faut juste chercher des définitions meilleures que l'abstrait, c'est l'opposé du figuratif, parce que ce n'est pas ça. Mais en revanche, que c'est de très très bonnes catégories. Et que la philosophie, en tout cas, elle fonctionne par catégorie, donc c'est très bon pour elle. Or, la coexistence, la contemporanéité de Michel-Ange et du maniérisme est fondamentale. Parce qu'il me semble que la catégorie de maniérisme nous met très bien sur la voie de ce que c'est que le fait pictural. Au sens le plus grossier du mot, quelque chose de maniéré dans la figure du tableau. Dans la figure telle qu'elle est. Telle qu'elle sort de quoi ? Telle qu'elle sort sur le tableau, je dirais, elle sort du diagramme. Eh bien, elle sort du diagramme avec une sorte de maniérisme, qu'on peut toujours interpréter d'une manière anecdotique. Prenez les figures de Michel-Ange, les figures du Tintoret, les figures de Velázquez. C'est un mélange de... Voilà, si on parle très anecdotique, très, la première impression qu'on a, c'est un mélange de extraordinaire efféminement, de maniérisme dans l'attitude, dans la pose. Genre. Presque d'exubérance musculaire alors, comme si c'était à la fois un corps trop fort et un corps singulièrement efféminé. Les personnages de Michel-Ange ne sont pas croyables. L'école qu'on appelle précisément maniériste, et qui fait des chefs-d'œuvre intenses, mais la manière dont ils font du Christ une figure, C'est pas incroyable ce qu'on pourrait appeler le caractère artificiel des attitudes et des postures. Bon, c'est notre œil qui voit ça à première vue, comme ça. C'est évident que, d'une certaine manière, c'est le plus beau de la peinture. À savoir, c'est l'affirmation du fait pictural. C'est bien forcé que, par rapport aux données visuelles, le fait pictural présente la figure sous des formes qui paraît à l'œil extraordinairement maniéré, extraordinairement artificiel. Et que là-dedans, il y a quelque chose comme une espèce de très insignifiante, c'est pas le plus profond de la peinture, mais de petite provocation du peintre. La manière précisément de dire, mais c'est pas ce que vous croyez. Si bien que quand on se précipite sur, au niveau de l'anecdote, sur des considérations sur l'homosexualité des peintres, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est en tant que peintres qui font du maniérisme. Ouais, forcément, forcément. Bon, mais enfin, tout ça, c'est très insignifiant. Hein. Bien. Donc, vous voyez, défaire les données visuelles par le diagramme qui instaure une possibilité de fait. Mais le fait, c'est pas une donnée. Le fait, c'est quelque chose à produire. Et ce qui est produit, c'est le fait pictural, c'est-à-dire finalement l'ensemble des lignes et des couleurs. C'est-à-dire le nouvel œil. Il a fallu passer par la catastrophe manuelle du diagramme pour produire le fait pictural, c'est-à-dire pour produire le troisième œil. Bien. Dernier caractère du diagramme, cinquième caractère. Je dirais dès lors, si vous me suivez, on voit bien que le diagramme doit être là. Je crois même plus qu'il puisse être seulement virtuel. Faut bien, il peut être recouvert, mais il est là. Il faut qu'il soit là dans un tableau. Il ne peut pas être simplement dans la tête du peintre avant qu'il commence à peindre. Il faut bien que le tableau témoigne de cette traversée du chaos. Un abîme ordonné, comme dit l'autre. Un tableau qui soit un abîme, c'est rien. Un tableau qui soit de l'ordre, c'est rien. Mais l'ordre propre au chaos, l'instauration d'un ordre propre à l'abîme, ça c'est l'affaire du peintre. Mais vous voyez qu'à ce moment-là, même techniquement, les dangers sont très grands. Et je recommence parce que c'est... comme ça, j'en aurais fini d'avoir regroupé et replacé tout ce qu'on avait fait avant. Parce que c'est très... Je voudrais que vous le preniez concrètement le plus possible, ce que j'essaie de dire. Parce que c'est un drôle de truc, cette histoire de... Encore une fois, c'est l'aventure temporelle du tableau que j'essaie de faire. Je ne vis pas le tableau comme une réalité spatiale. Je vis vraiment temporellement, dans cette espèce de synthèse du temps propre à la peinture. L'avant, le diagramme et l'après. Eh bien, les dangers, c'est quoi? On les a vus ici, je récapitule. Un premier danger, c'est que le diagramme prenne. Que le diagramme brouille tout. Que le diagramme brouille tout. Que, maintenant vous comprenez peut-être mieux ce que ce serait. Peut-être qu'il y a des tableaux comme ça, ou des tableaux qui frôlent. Parce que les chemins vont devenir très étroits maintenant, au point où on en est. Et peut-être que là, on aura le moyen de renouveler les grandes catégories. Qu'est-ce que veut dire être abstrait? Qu'est-ce que veut dire être expressionniste? Etc. Parce que, à partir de quel moment je peux dire d'un tableau, ah là là, là, on sent bien que c'est affaire de goût qu'il y a un moment où il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus qu'à attendre les réactions, que chacun arrive à saisir ses propres réactions, ce qui n'est pas facile. Arriver à saisir ce que je sens devant un tableau alors que tant de choses me font sentir des choses toutes faites, très difficile déjà. Mais à partir de quand est-ce que je peux dire les tableaux qui me font l'impression Ah, c'est raté parce que s'en fallait peu, ça aurait pu être formidable, mais non. Tout retombe dans une espèce de grisaille. Ou bien alors dans une espèce de trait capricieux. Des traits capricieux, mais finalement arbitraires. Je me dis pourquoi pas, oui, c'est bien, on peut faire ça. Mais il aurait pu faire aussi bien autre chose, il n'y a pas de nécessité là-dedans. Vous savez, l'ennemi de toutes les formes d'expression, c'est la gratuité. Quand on vous dit, c'est jamais le faux, on se trompe jamais. Mais quand on dit quelque chose, alors que pourquoi le dire? Est-ce que ça vaut la peine de le dire? De même un tableau, ça valait la peine de faire ça. Même pour celui qui l'a fait. Plein de peintres font des tableaux et c'était pas la peine même pour eux de le faire. On dit bien, mais qui décide? Je sais pas, moi c'est trop compliqué. Mais en tout cas, on a l'impression que quelque chose pouvait en sortir à ce moment-là, quand le diagramme a tout pris, plus rien ne sort du diagramme. Alors quand le diagramme a tout pris, je peux dire aussi bien, c'est du pur chaos, le germe est mort. Et c'est ce que Clay nous disait. Si le point gris occupe tout, l'œuf est mort. C'est bien cette expression. Si le point gris occupe tout, envahit tout le visible, l'œuf est mort. Alors, à votre choix. Un peintre juge d'autres peintres. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne juge pas, en fait. Parce qu'il y a encore une fois, on insiste, de tous les artistes, je crois que les peintres sont vraiment parmi les plus, peut-être les plus orgueilleux, mais aussi les plus modestes en apparence. Ils ne jugent pas, mais ils expriment des convenances. C'est toujours intéressant qu'un peintre dise pourquoi il n'est pas attiré par telle forme de peinture. Alors, quand Bacon se trouve devant du Pollock, il dit « Ah, c'est du gâchis, c'est du gâchis. » Ça offense pas Pollock, ça lui retire rien. C'est intéressant à quel niveau? Pas parce que ça nous apprend quelque chose sur Pollock. Bacon, il nous apprend quelque chose quand il parle d'un peintre qu'il aime et qu'il admire. Quand il exprime simplement, ça veut dire quoi, Pollock, c'est du gâchis. Il va jusqu'à dire à l'expressionnisme, je n'aime pas, c'est une formule presque raciste, j'aime pas ce gâchis d'Europe centrale. Gâchis d'Europe centrale, on voit bien ce qu'il veut dire. Lui, il est irlandais, il est anglo-irlandais. Gâchis d'Europe centrale. Bon, alors, ça nous intéresse en quoi, ça? Ça nous intéresse parce que quand Bacon voit un Pollock, il doit le faire basculer, il doit dire, oui, c'est un chaos. Et en effet, quand on voit un tableau de Pollock, on peut avoir légitimement l'impression vraiment d'une peinture chaos. Bien. Eh bien, oublions Pollock. Il y a des toiles qui nous font cet effet. Voilà que le diagramme s'est tellement identifié à son premier aspect, le chaos, qu'il est lui-même tombé dans le chaos, si bien que rien ne sortira du diagramme. Tout est brouillé. C'est la grisaille. Ou bien il y a un excès de couleurs qui font que tout est gris. Une toile ratée. Bon, ça arrive. Voilà le premier danger. Deuxième danger. Qu'est-ce que c'est, je précise encore, oui, ce danger. C'est qu'au niveau du diagramme, comme le diagramme entraîne, on l'a vu, l'écroulement des coordonnées visuelles, danger du diagramme, bah, il a été très très bien formulé, indépendamment du mot diagramme, très bien formulé par Cézanne. Il y a des lettres de Cézanne qui dit, avec une espèce d'angoisse, au lieu d'assurer leur jonction, les plans, là, comprenez, ce n'est pas un problème de perspective, parce que la perspective s'enlise, c'est rien dans la peinture. C'est une notion nulle, la perspective. Il y a une notion bien plus. La perspective, ce n'est qu'une réponse possible au seul problème pictural qu'on ne peut poser picturalement sous la forme « Y a-t-il lieu dans des tableaux, enfin, ou dans des tableaux où il y a lieu de distinguer des plans ?» Il y a des tableaux où il n'y a aucun lieu de distinguer des plans. Et bien, comment se fera et comment le peintre opère-t-il la jonction des plans? Mais la perspective, c'est un cas de jonction des plans, il y en a d'autres. Le vrai problème pictural, c'est quand il y a plusieurs plans, quel sera le mode de jonction des plans. Ben, Cézanne dit, ben oui, du point de vue de l'abîme, dans le chaos, les plans, au lieu d'entrer en jonction, tombent les uns sur les autres. Ils tombent les uns sur les autres. Les couleurs, au lieu d'entrer dans une gamme, se mélangent. Et ce mélange n'est plus qu'une grisaille. L'objet qui a perdu sa ressemblance, l'objet peint qui a perdu sa ressemblance dans le chaos, est fondamentalement en déséquilibre. Bon. La chute des plans les uns sur les autres, le mélange des couleurs dans une grisaille, l'objet tout de travers est en déséquilibre. Ça, c'est le pôle de la toile qui s'est tellement identifié au diagramme qu'il n'y a plus qu'un chaos. Alors, c'est pas intéressant l'étoile ratée. Je dirais, ce qui est intéressant, c'est en revanche, qui est-ce qui frôle ce danger-là ? Qui est-ce qui frôle ce danger-là et qui, en fait, arrive tellement à l'éviter, arrive à l'éviter magistralement. Là, ça devient intéressant. Qui est-ce qui frôle ce premier danger du diagramme, mais précisément parce que c'est un grand peintre ou ce sont de grands peintres, l'évite. Ça nous permettrait peut-être de fonder là une première catégorie esthétique. Je crois que c'est ce qu'on a appelé précisément les expressionnistes abstraits. Les expressionnistes abstraits, c'est-à-dire toute l'école américaine, qui a dominé la peinture américaine, c'est la génération qui a maintenant dans la soixantaine, quoi. Eux, je crois que la manière dont ils frôlent le chaos, c'est-à-dire le diagramme prend tout, ils frôlent vraiment le chaos et pourtant, le diagramme reste producteur de quelque chose de fantastique. Je dirais que c'est Pollock, ça. C'est Maurice Louis, c'est Noland, c'est enfin tous ceux que beaucoup d'entre vous connaissent. Surtout, je retiendrai Pollock au niveau de la ligne et Maurice Louis au niveau de la tache couleur. Mais on verra tout à l'heure. Vous voulez, ce serait la tendance de l'expressionnisme abstrait. Pourquoi ? Rapprocher au maximum le diagramme du chaos. Mais évidemment, contrairement à ce que dit Bacon, il me semble évident qu'ils ne tombent pas dans le chaos. Que leur tableau n'est ni une grisaille, ni un gâchis. Bon. Voyez l'autre tension du diagramme. Donc la première tension du diagramme, c'est que le diagramme prenne tout. À ce moment-là, il n'y a plus qu'une apparence de chaos. Ce serait donc, si vous voulez, encore une fois, l'expressionnisme abstrait. Cherchons l'autre tendance. Voyez, je définis maintenant donc ces catégories esthétiques en fonction de positions privilégiées par rapport au diagramme. Et non pas du tout de position par rapport à la figuration, problème qui ne se pose pas. Je dis, allons à l'autre pôle. La seconde tension du diagramme, ce serait quoi ? Se réduire au minimum. Se réduire au minimum. Ah donc, comment réduire un peu profond ruisseau ? En faire un très peu profond ruisseau, n'en garder que le minimum. Cette fois-ci, tout comme tout à l'heure je disais, quand vous élevez le diagramme à sa puissance maximum, il tend à s'identifier à son premier aspect, le chaos. Lorsque vous le réduisez au minimum, il tend à s'identifier au maximum à un ordre pictural. C'est-à-dire, en fait, vous tendez à réduire le diagramme et même à le remplacer. Par quoi ? Supposons, et là c'est la première fois qu'on rencontre cette idée, ce mot qui va peut-être nous servir beaucoup, vous tendez à y substituer une chose alors très très étonnante, une espèce de code. Et là, si le mot m'ouvre quelque chose, c'est dans la mesure où je me dis, bon, est-ce qu'on n'a pas une nouvelle tension, diagramme, code, telle que la différence entre le diagramme et le code nous permettra peut-être d'avancer beaucoup sur qu'est-ce qu'un diagramme, du point de vue du concept philosophique à chercher. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce qui me donne cette impression? Un code, évidemment, ça peut vouloir dire quelque chose de grotesque. Je cherche les tableaux ratés. Mais après tout, vous sentez ce que j'essaie de... La tentative de réduire le diagramme au maximum. Non, de le réduire à son minimum. Et de le remplacer par un code, c'est qui ça? C'est évidemment une manière possible de définir la peinture dite abstraite. Les grands abstraits. On verra, c'est juste, on verra si c'est vrai. Mais quand c'est raté, et Dieu que la peinture abstraite a ses mauvais peintres, autant que toutes les autres peintures, mais là c'est une catastrophe. Enfin, les types qui font des carrés, tout ça, c'est abominable. Eh ben, je veux dire, c'est vraiment prétentieux. Hein. Un carré, ça peut être prétentieux. Hein. Non, ça peut être sale, un carré. Pas croire qu'il suffit de faire des carrés pour faire... oui, ça peut être dégoûtant, un carré. Il y a des carrés dégoûtants chez les mauvais abstraits. Bon, eh ben, tous ces genres de peinture abstraite, qui, au niveau le plus élémentaire, tendent vers une espèce de géométrisme. Qu'est-ce que c'est, ça? J'ai l'impression que, oui, que ce qu'ils tendent à faire, c'est remplacer le diagramme par un code. Quand ça rate, à ce moment-là, quand ça rate, c'est quoi? C'est lorsque la toile ne fait plus qu'appliquer un code extérieur. Oui, oh, si je me sers de la peinture pour appliquer un code extérieur, qu'est-ce qui distingue? Autre manière de poser la même question. Qu'est-ce qui distingue un triangle de Kandinsky et un triangle de géomètre? Qu'est-ce qui fait du triangle de Kandinsky un triangle esthétique? Qu'est-ce qui fait...